France Culture.
My dear friend William, how much time has passed between us? I cannot remember.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Wilson et moi, nous ne venons pas de l'opéra traditionnel, mais du théâtre expérimental. Nos racines se trouvent dans Russ Cunningham et John Cage, le Living Theatre, Kotowski, Genet et Beckett.
This is the roots.
Yes, for your impending visage, I am already grateful. Leave now, William. I need you.
France Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les structures. Une heure de radio sur la musique. En musique. Et quelle musique ? Bienvenue, c'est la série musicale. Quelques jours, un certain acteur hollywoodien dans la course pour les Oscars, qui s'appelle Timothée Chalamet, on va le citer, déclarait que l'opéra était un genre mort, que plus personne au 21e et surtout au 22e siècle n'en pratiquerait. Ici, dans la série musicale, vous le savez, on n'est absolument pas d'accord. Et il suffit parfois d'une seule figure pour montrer eh bien, qu'il a tort. Cette figure, elle s'appelle Philip Glass. À 89 ans, il demeure l'un des compositeurs les plus prolifiques, les plus influents de notre temps. On attendait de lui, ces dernières semaines, une 15e symphonie qu'il ne présentera pas finalement au Lincoln Center de New York pour protester contre la reprise en main de cette grande institution musicale par Donald Trump. Et depuis plus d'un demi-siècle, Glass transforme surtout notre rapport au temps et à l'écoute avec Steve Reich, avec John Cage, bien sûr. Il a profondément modifié notre manière de penser la musique avec des œuvres que vous connaissez forcément, même si vous ne connaissez pas leur nom, tant elles sont omniprésentes au cinéma, dans les publicités, Music in 12 Parts, ou alors Glasswork, qui a irrigué toute la création contemporaine, jusqu'à nos génériques ici, à France Culture. Mais Philip Glass est surtout le compositeur d'opéra le plus joué au monde. Avec Einstein on the Beach, créé en 76 avec le metteur en scène Bob Wilson et la chorégraphe Lucinda Childs, il a totalement rompu avec la narration traditionnelle et transformé l'opéra en une expérience sensorielle, temporelle, complètement unique. Sur plus de 50 ans de carrière, il a composé pas moins de 14 opéras et 15 opéras dits « de poche ». Chacun explorant des espaces où la répétition, la circularité, le flux sonore modifie notre perception du temps, de l'espace. Alors, si Einstein on the Beach est très joué en France, P. pays qui a beaucoup joué dans l'existence même de cette pièce. Eh bien, il nous manque beaucoup d'opéras de Philippe Glass. Et cette saison 2025-2026, eh bien, répare un peu de gros manques, notamment Satyagra, l'un de ses opéras les plus emblématiques et sans doute l'un de ceux qu'on chérit le plus ici à la Série Musicale, a été joué pour la première fois en France à l'Opéra de Nice à l'automne dernier, 46 ans après sa création. On pourra le découvrir dans une autre mise en scène à l'Opéra Garnier en avril prochain. Et puis à Lille, à l'Opéra de Lille, en cette fin de mois de mars, c'est Les Enfants Terribles, pièce adaptée d'un homme qu'il admirait beaucoup, Jean Cocteau, qui sera donnée. Vous le savez, on a à cœur de vous donner à entendre tout ce qui nous touche. Pendant une heure, on va parcourir cet univers lyrique totalement singulier, une musique où le temps ne file pas vraiment droit, se déploie en cycle, en spirale, en flux continu. Une musique qui transforme l'opéra en expérience d'écoute, qui nous prouve qu'il est loin d'être mort, cet opéra, dans une balade, comme toujours, subjective et nécessairement non exhaustive, dans la Série Musicale sur France Culture. Vous connaissez sans doute cet air, ce morceau issu de la bande originale d'un petit chef-d'œuvre du cinéma, The Hours, qui date de 2002, un film consacré à la figure et à la pensée de Virginia Woolf, un film circulaire où le temps semble s'effacer, qui met en scène trois femmes dans trois lieux et trois temps différents, tout à la recherche d'une liberté intérieure. Beau thème, belle manière de mettre en mouvement en image, la pensée et l'existence de Virginia Woolf. Et c'était sans surprise Philippe Glass qui signait la musique. Reprenons ici l'un des airs, et on ne le sait pas forcément, de son deuxième opéra, Satyagra, Protest, devenu pour le film I'm Going to Make a Cake. Cette reprise piano et orchestre nous entraîne vers une structure qu'on pourrait imaginer proche de Bach. Et Bach, pour le tout jeune Philippe Glass, ça a été une référence essentielle, un des jalons qui allait lui permettre de réinventer sa musique. Il y a évidemment un parcours derrière cette transformation. Ce jeune étudiant américain, qui s'était formé déjà à la Juilliard School et dont l'instrument de prédilection était déjà devenu le piano, va gagner une bourse qui l'emmène à Paris pour être formé, rencontrer une figure complètement mythique, l'une des plus grandes pédagogues de l'histoire de la musique. Elle est française, vous la connaissez, on en a beaucoup parlé, c'est elle qui a formé aussi bien Michel Legrand que Quincy Jones ou encore Aaron Copland, celui qu'on nomme le père de la musique classique américaine, c'est la grande Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, professeure de légende, qui va lui faire travailler essentiellement Bach et Mozart, mais qui surtout lui transmet quelque chose d'essentiel, comme il le racontait déjà sur France Culture en 2002.
But getting back to Boulanger, the thing that, apart from that, she gave me two things. One was the confidence to
pour retourner à Boulanger,
to write
elle m'a donné
a very radical music, knowing, with, and being able to
assez de confiance pour écrire une musique très novatrice. Et puis il m'a fait comprendre la relation entre le style et la technique. J'ai compris que le style personnel n'existe pas sans technique.
Is a special case of technique. That it's only through the that when you take the larger technique
and you refine it to the elements, dans son sens le plus large et vous la raffinez, là vous trouvez ce qui va devenir votre style.
Le génial Knee Play 3, le petit genou qui articule l'un des nombreux actes d'un opéra qui va sans doute changer l'histoire du genre Einstein on the Beach. Philip Glass rencontre Bob Wilson en 73 parce qu'il assiste à la représentation d'un travail qu'on aime beaucoup, The Life and Times of Joseph Stalin. C'est à Brooklyn. Bob Wilson, très intéressé par cette rencontre avec Glass, lui demande comment il compose. Et Glass va prendre l'exemple d'une équation mathématique. Ensemble, ils envisagent d'écrire une œuvre. Une œuvre qui dilaterait complètement l'idée même d'une représentation. L'idée est que le spectateur devienne le témoin d'un univers sensoriel total où le temps se dilate, se replie, la circularité des motifs produirait une expérience complètement hypnotique après avoir hésité sur la figure qui serait à l'origine de cela. Bob Wilson pensait à Charlie Chaplin ou à Adolf Hitler. glace à Gandhi, mais on verra qu'il retrouvera ce personnage plus tard. C'est bien la figure d'Albert Einstein qui est choisie, interprétée par le violoniste Paul Zukowski, qui est un proche de Philip Glass. Alors, cette pièce nie, genou, montre bien la manière dont l'éclatement narratif est total dans cette pièce qui dure près de 5 heures et qui sera présentée, on en est assez fiers, par le Philip Glass Ensemble lors du Festival d'Avignon au Théâtre Municipal, c'est en juillet 1976. Elle fait forte impression, elle impressionne mais elle décontenance. Comment mettre en place, changer l'histoire de la musique et l'histoire même du propos qu'on entend raconter. Écoutez Bob Wilson expliquer comment justement la partition et le livret sont écrits et conçus. Donc vous avez entendu ce genou qui accumule les chiffres. Essayez de comprendre comment tous les deux ont travaillé.
When Phil Glass and I decided to create the opera Einstein of the Beach.
Quand Philippe Glass et moi, nous avons décidé de créer cette opéra, Einstein on the Beach, dès le début,
that would be accessible to anyone in the world.
Il fallait que ça soit accessible pour n'importe qui dans le monde.
As a visual artist, I made
en tant qu'artiste visuel, j'ai créé thèmes et variations d'un point de vue visuel pour que l'on puisse écouter les images.
And Phil explained to me the structure
Philip Glass
of his music,
m'a expliqué la structure de sa musique,
compositions together.
La façon dont il assemble les compositions.
It's already music, just hearing the numerical counts.
Pourtant, rien que ce décompte des chiffres, c'est de la musique, ça.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4 2 1 4 2 4 2 1 2 3. It was already a kind of music.
C'est déjà de la musique là.
A music, a language that
c'était
needed
musique,
no translation.
Un langage qui n'appelait aucune traduction.
Film où l'on retrouve l'immense maître du sitar indien Ravi Shankar avec la collaboration d'un tout jeune Philip Glass. Philip Glass a à l'origine de ce qui lui permet de tout réinventer cette expérience avec Nadia Boulanger, cette rencontre avec Bach, pas tellement celle avec la musique qu'on faisait à Paris à l'époque, notamment Pierre Boulez qui le laisse de marbre, mais bien celle du théâtre, on va y revenir, et celle de Ravi Shankar, car pour gagner un peu d'argent, Eh bien, il obtient ce travail qui consiste à aider Ravi Shankar à transposer la musique indienne dans des partitions à l'occidental pour pouvoir justement être lu et interprété par des musiciens occidentaux comme ils le font dans la bande originale de ce film. Ravi Shankar va l'initier au tala, ces cycles rythmiques indiens, et au concept de répétition et de variation dans le temps. Écoutez la manière dont il racontait dans les années 90 comment la découverte de cette musique indienne avait radicalement changé sa manière de penser, la manière dont lui allait écrire de la musique. Alors je vous explique, dans la musique occidentale, on parle d'un triptyque, mélodie, harmonie et rythme. Et la manière dont ça marche en Occident, c'est que l'harmonie et la mélodie définissent la structure de la pièce. Le rythme est juste une forme décorative, on va dire. Dans la musique asiatique, du subcontinent indien, et je dirais même dans de larges patries de l'Afrique, ça ne marche pas du tout comme ça. Ce sont la mélodie et le rythme qui sont centraux. L'harmonie n'est pas si importante. D'ailleurs, dans certains endroits, elle n'existe pas du tout. On va dire que le dialogue principal n'a pas lieu entre l'harmonie et la mélodie, mais entre la mélodie et le rythme. Et donc, quand on commence à envisager le rythme de cette façon, alors son rôle dans cette trilogie, harmonie, mélodie, rythme, devient complètement différent. En étudiant avec Ravi Shankar, j'ai compris que le rythme pouvait prendre un rôle complètement différent. Il pouvait même devenir la structure même de la musique. L'un des morceaux les plus bouleversants de Satyagraha que le public niçois a eu l'occasion de découvrir à l'automne dernier et qu'on découvrira sur la scène de Garnier, une pièce absolument fascinante. La deuxième que va monter un Philippe Glass complètement marqué, on l'a entendu par sa rencontre avec Ravi Shankar qui va intégrer la notion de cycle rythmique, la méditation musicale dans cette pièce consacrée à la figure de Gandhi. Satyagraha, ça veut dire la force de la vérité et c'est l'éthique de Mahatma Gandhi, l'idée que la résistance non violente n'est absolument pas passive, qu'il s'agit d'une discipline, d'une persistance active, un rituel et de la construction d'une éthique. Une montée bouleversante dans ce final de Satyagra, opéra composé entre 78 et 79, qui sera créé en 1980 et qu'on n'a jamais vu en France. Quelle chance pour nous d'avoir accès à cet opéra, qui n'est pas un opéra biographique sur Gandhi, qui au contraire met en œuvre ou met en scène des personnages, Tolstoï et Tagore, qui soit ont influencé ou sont influencés par la figure et la pensée de Mahatma Gandhi, des personnages qui eux-mêmes sont muets et ne font qu'assister à ce qui se joue devant eux, et une partition dans laquelle Glass change complètement son rapport à la voix. Ces fameux motifs circulaires, eh bien, ils sont incarnés par ces voix, elles changent de rôle, elles deviennent des instruments à part entière. Et c'est une grande difficulté d'ailleurs pour les chanteurs de l'époque de se fondre dans cette musique, ce motif glacien qui s'est inspiré du Bhagavad Gita, un texte fondateur de l'hindouisme qui traite du devoir, de la morale, de l'action juste et de la méditation, dans un livret écrit par Constance de Jong, qui ne met pas en scène dans Gandhi mais traduit ses principes avec cette langue, le sanskrit, qui a évidemment une texture particulière, comme il le racontait.
Ça pose le problème, pas le problème musical, mais le problème de conceptuel, je veux dire. Surtout pour les chanteurs qui, pour la première fois, travaillent avec ma musique, c'est de temps en temps, c'est vraiment difficile pour eux. Je crois que c'est une question de mentalité, vraiment. C'est pas une question de la difficulté de la musique. La première chose que me frappe, on chante dans la langue originale, c'est-à-dire sanskrit. I don't want to say that. C'est une langue très, très belle. Ça résonne un peu, enfin, pour nos oreilles, ça résonne un peu italien, peut-être. C'est une très belle langue pour le chanteur. C'est une langue pas du tout connue et ça nous laisse les possibilités d'entendre la musique dans une façon très pure.
Écoutez la musique de façon très pure dans ce morceau Tolstoï Farm, inspiré de l'ashram qu'avait créé Mahatma Gandhi pendant son séjour en Afrique du Sud. Plus de 7 minutes qu'on va vous laisser entendre dans leur intégralité. La beauté immense de cette Tolstoï Farm de Satyagra, première pièce écrite pour orchestre symphonique, même si ses passages les plus importants, vous l'entendez, sont composés pour le chant. Philippe Glass va tenter de clore ce geste instauré avec cette pratique de l'opéra, avec un troisième opéra. Considère partie de sa trilogie, c'est l'opéra Akhenaten, une composition complètement folle pour orchestre et voix, chantée là encore dans des langues auxquelles le public occidental n'a absolument pas l'habitude d'être exposé, l'acadien, l'hébreu, l'hébreu biblique et l'égyptien ancien. L'idée ici, c'est de travailler autour de la question de la lumière, du cycle solaire, on est toujours dans une logique cyclique, la transcendance, le temps se dilate, là encore. Il y a un livret avec ces trois langues qui crée une idée de distance historique, de mystère. La dimension sacrée et solennelle s'instaure par la sensation plutôt que par la langue. Vous allez entendre la manière dont justement il passe un nouveau pas dans la manière de déconstruire l'opéra. On est dans un moment où la musique occidentale se pose la question de la tonalité. Lui va encore déplacer l'endroit d'où on peut construire de la musique pour la scène en imposant la polytonalité.
Akhenaton, c'est le début du travail sur la polytonalité. Je ne pensais plus aux structures rythmiques ou harmoniques, mais à la structure tonale. Et j'ai compris que la tonalité est une fonction de la perception et non des règles. En fait, les règles sont formées par la perception. Donc il faut considérer cela comme une question de perception et non une question formelle. Donc les règles ne sont pas importantes. L'important, c'est le processus de perception. À partir de là, j'ai commencé à travailler d'une autre manière. Donc pour moi, parler de mantra, c'est ne pas prendre en compte tout le processus de développement. Ça en fait un genre de chinoiserie qui n'est pas très intéressante.
Philip Glass se défendre de gens qui, dans les années 80, voyaient en lui finalement un homme qui mettait en place, mettait en scène la musique comme un élément du New Wave, le mantra, une chinoiserie ou peut-être une espèce de facilité ou de mode, et lui de rappeler combien il tente vraiment de changer notre relation à la théorie musicale. Et ce qui l'a le plus marqué ou ce qui l'a le plus impressionné, ce qui a sans doute joué un rôle déterminant dans sa manière de totalement réenvisager la musique, ne vient pas vraiment de ce qui se jouait, on l'a déjà dit, musicalement à son époque, ni à Paris, ni même ailleurs. C'est bien la rencontre avec le théâtre, et avec notamment le théâtre français, ou en tout cas celui qu'il a pu découvrir en tant que jeune étudiant boursier dans les années 60, dans un Paris en pleine ébullition, qui a fondamentalement changé son rapport à son art. Écoutez-le le raconter en 2022, et peut-être comprendrez-vous plus simplement comment, justement, ce lien avec la manière d'envisager l'art à Paris, ou en tout cas à l'européenne, notamment la découverte d'un Samuel Beckett, avec lequel il va beaucoup converser dans la suite de tes activités après cette première trilogie, vient fondamentalement de ce moment fondateur de jeunes étudiants à Paris.
Moi, à l'époque, c'était boulanger Ravi Shankar. Et puis, de l'autre côté, il y avait l'influence du théâtre à Paris. Il y avait Barreau, une présence puissante. Et au TNP, on pouvait voir toutes les pièces de Brecht. Il fallait se souvenir que Brecht n'était pas joué aux États-Unis. Pour des raisons de mauvaise traduction et des raisons politiques. Bizarrement, Brecht n'a jamais fait partie de la culture américaine. Être jeune à Paris dans les années 60 voulait dire être confronté à Brecht, Beckett et Genet, et puis trouver dans notre propre génération Brooke et Grotowski. Enfin, ils ont quelques années de plus que nous, et à partir de là, il y a eu Wilson et Richard Foreman, Meredith Monk et Laurie Anderson, et ça, c'est vraiment ma génération. C'est donc à Paris que j'ai compris ce que pouvait être le théâtre contemporain.
Liebeslied. Siehst du den Mond über Soho?
Ich sehe ihn, Liebe. Fühlst du mein Herz schlagen?
Fühle es, Geliebte.
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen.
Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und geht's auch ein Schriftstück vom Standesamt und keine Blume auf dem Altar und weiß ich auch nicht, woher mein Brautkleid stammt und gibt's keine Myrten im Haar. Der Teller
l'influence déterminante d'un Brecht et d'un Kurzweil, ici l'opéra de Katsu, que Philippe Glass découvre à Paris, et ce Sprechgesang, ce parler-chanter auquel il va beaucoup faire référence, qu'il va utiliser à la fois des Einstein on the Beach, mais aussi dans une trilogie sublime qu'on a peu souvent l'occasion de voir, une trilogie consacrée à un homme qui l'a beaucoup frappé, dont la modernité du langage l'a beaucoup frappé, c'est Jean Cocteau. Sa poésie, la manière dont le temps et le destin semblent suspendus dans ses œuvres, en particulier dans Les Enfants Terribles, vont profondément l'influencer. Il construit une trilogie où il met en scène La Belle et la Bête, mais aussi cet étrange roman, Les Enfants Terribles, créé en 1996, dans lequel il est question d'adolescence, de jeu, de cruauté, et de l'impossible construction d'un espace intérieur.
Thank you. swallows flew. Paul was looking for D'Argelo, whom he loved. The battle gave him courage. He wanted to find D'Argelo to fight at his side. He would defend D'Argelo and prove what he was made of.
C'est bientôt en français que vous entendrez une voix de femme s'élever dans la sublime partition écrite par Philippe Glass sur cette pièce de Cocteau, Les enfants terribles. Et la mort de Paul, la mort comme un moyen de préserver l'enfance à découvrir à l'opéra de Lille. Écoutez Philippe Glass nous raconter comment, justement, au cours de cette longue rencontre avec l'opéra, dans laquelle il teste en fait tout ce que sa recherche musicale rencontre à peu près partout et qu'on peut découvrir dans des pièces bien plus célèbres, bien plus reprises aussi, c'est justement la relation avec la voix qui a complètement changé.
It's another aspect of it, which is, you know, in retrospect, Einstein.
Quand on y pense, Einstein était une œuvre très novatrice pour tout le monde. Je n'ai jamais essayé d'en écrire une autre comme ça. Nous avons été tellement à l'extrême qu'il semblait qu'il n'y avait nulle part d'autre où aller, en tout cas dans cette direction.
Mais un des aspects de ça, certainement, était la façon dont la langue était utilisée.
C'était novateur dans la façon d'utiliser le langage. Il n'y avait qu'un aria. Tout le reste, c'est l'image et de la musique. Quand j'ai travaillé sur Cocteau, 15 ou 18 années plus tard, la voix était devenue le centre de l'œuvre. C'est une transformation qui s'est opérée lentement. Je me suis intéressée de plus en plus au chant. J'en avais fait moi-même, dans la chorale, au conservatoire. Donc je n'étais pas totalement ignorant. Mais il fallait que je comprenne la manière dont les chanteurs s'entraînent pour chanter de l'opéra. À présent, j'auditionne souvent les chanteurs avant d'écrire la pièce, pour connaître la voix avant de l'écrire.
The acquisition of impetus is measured by the departure of the movable body from the point of origin and its approach toward the center to which its motion tends. Take the line AB as parallel to the horizon, and at the point B, I erect the perpendicular BC, and then I add this slanting line CA. Now, the line CA is meant to be an inclined plane, exquisitely polished and hard, upon which descends a perfectly round ball of some very hard substance, marble or lead or jet. Suppose another ball, quite similar, to fall along the perpendicular CB. I ask you to conceive that the impetus of that which descends by the plane CA upon arriving at the point A would be equal to the impetus acquired by the other at the point B after falling along the perpendicular CB. The speeds of the bodies falling by the perpendicular and by the incline are equal. That is, movable bodies may be called equally fast when the spaces passed over have the same ratio to each other as the times of travel. And these motions are continuously accelerated.
Immense beauté de ce moment. Du plan incliné découverte de Galileo Galilei, opéra de 2002, où à nouveau Philip Glass s'attaquait à son sujet de prédilection, l'idée de la science, un opéra encore une fois non pas biographique, mais vraiment comme la sensation, le flux de la pensée de ce grand penseur, de ce grand découvreur des cycles qui règnent sur notre vie. On vous invite à aller découvrir au disque et en vrai les opéras géniaux de Philip Glass. Merci beaucoup à Camille Mathy, la réalisatrice de cette émission, à Minetta Diawara qui était au platine, et à la merveilleuse Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, à qui on souhaite un très très prompt rétablissement. N'oubliez pas que vous devez vous abonner au podcast de la série musicale pour y retrouver toutes nos séries sur le rapport entre la musique minimaliste et le ballet, notamment, et sur les grands moments de l'histoire de l'opéra. À la semaine prochaine.